J'espère que tout le monde va bien. Alors, prenez du coup vos agendas pour faire une croix pour le jour du retour. En fait, c'était hier. Depuis que je suis chrétien, je crois, j'entends à droite et à gauche des prophéties, des interprétations, des lectures qui annoncent la fameuse date du retour de Christ. Je ne crois pas du tout à cela, mais c'est vrai que ça peut être déstabilisant parfois, et on voit déjà l'apôtre Paul, quand je vous ai fait cette blague, qui a à reprendre un certain nombre de personnes parce qu'ils annonçaient que Christ était déjà revenu. Donc c'est un sujet qui va et vient, et surtout dans des périodes un petit peu compliquées de l'histoire. Et c'est vrai que dans notre monde moderne, où on s'est habitué à s'installer dans un confort et une apparente maîtrise de toutes les choses avec les progrès de la technologie, de la médecine, on pensait maîtriser, et puis voilà que un petit virus a fait basculer la planète entière et l'a mis en état de stress sur tous les domaines que le monde a pu construire. Et c'est vrai que dans ces périodes particulières de l'histoire, eh bien, il y a ce retour à se dire, mais mince, est-ce que le Seigneur, au fait, il ne devait pas revenir? Et donc, on va parler un petit peu de certaines choses ce matin. Et je voudrais dire à la fois, on rigole par rapport au fait d'annoncer la date exacte, et à la fois, je crois que la Bible nous encourage à prendre ô combien au sérieux le retour du Seigneur. Et si c'est ça qui reste ce matin, eh ben, j'allais dire, j'aurais fait mon boulot. Le reste, ce sera que secondaire, mais que reste toujours dans notre cœur, à chaque matin qu'on se lève, chaque soir qu'on se couche, que notre Seigneur revienne bientôt. Amen. Alors, s'il y a un sujet qui a fait débat, c'est bien celui-là, celui de l'eschatologie. Et ce matin, on va essayer de poser certaines bases bibliques sur la fin des temps. Et c'est ce terme-là, eschatologie. Eschatos, ça veut dire les derniers. Et donc, c'est les temps de la fin. Et on va essayer de dérouler brièvement à la fin la position des anciens et des responsables sur l'enchaînement des événements lors du retour du Seigneur. Et on aura le temps plus cet après-midi de se plonger sur les autres positions qui peuvent exister voilà, et quels peuvent être les arguments qui peuvent être avancés. Et je voudrais commencer par dire qu'on peut avoir, bien sûr, une interprétation différente sur l'interprétation des événements, et c'est le cas hein, dans le monde chrétien de manière générale. Il y a plusieurs vues, plusieurs visions sur la façon dont le Seigneur va revenir. J'allais dire du moment que cette interprétation repose sur l'Écriture. Et c'est ça qui va être important. C'est qu'il y a des interprétations qui reposent clairement sur l'Écriture, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Par exemple, je ne sais pas si les plus anciens chrétiens, oui, peut-être les nouveaux, n'ont jamais vu ce film, je ne sais pas s'il est à voir ou pas, qui s'appelle L'Enlèvement et qui véhicule cette idée d'un enlèvement secret de l'Église. C'est-à-dire qu'on ne va pas savoir et ouf, il y a des personnes qui vont disparaître et on va se poser la question, mais ils sont allés où? Voilà un peu la manière dont présente ce film la version de l'enlèvement. Et je crois, du moins dans ma lecture aujourd'hui de la Bible, qu'il n'y a aucun verset qui supporte cette vision-là des choses. Et ça, je dirais que ce n'est pas forcément une vision biblique du retour du Seigneur. Voilà. Donc on a le droit de ne pas être d'accord et ce n'est pas la fin du monde. Peut-être que certaines ce matin vont simplement découvrir un enseignement sur le retour du Seigneur. Et peut-être que pour d'autres, ben, je vais faire bouger ou bousculer certaines compréhensions à ce sujet. Ce que je veux dire, c'est que personnellement, je reste humble face à l'interprétation des textes qui parlent de ce sujet. Et je suis tout à fait ouvert à la discussion et aux arguments qui pourraient être avancés pour d'autres positions, qui sont d'ailleurs très intéressants. Je dirais aussi que c'est un sujet important, l'eschatologie, mais en général, en théologie, on le place plutôt au second plan. Le débat existe depuis le début, depuis le premier siècle. On voit ça dans le discours avec Tryphon de Justin Martyr. On en parlera un petit peu, je donnerai une citation cet après-midi. Donc le débat existe depuis le début et c'est un sujet qui ne dépend pas de l'action de l'homme, mais uniquement de ce que Dieu, lui, a prévu. Voilà. Ni vous, ni moi ne pourrons influer sur la manière dont le Seigneur a prévu de revenir. Donc je ne prétends pas ce matin clore ce débat, cet après-midi, oui. Non, c'est pas vrai. Mais on aura l'occasion d'approfondir plus certaines positions et peut-être de comparer certaines approches pour que chacun puisse se faire une idée et se positionner à l'instant T. Et on pourra aussi échanger peut-être sur un certain nombre de questions dont certaines peuvent se poser. J'ai eu quelques échanges avec certaines personnes, mais voilà, n'hésitez pas à venir poser des questions par rapport à ce qu'on peut vivre. Parce que malheureusement, ce sujet de la fin des temps, et notamment grâce aux télévisions américaines, véhicule beaucoup de stress et d'angoisse, comme si c'était quelque chose que nous devions craindre. Et ce matin, on va voir que en tant que chrétien, non. En tant que non-chrétien, oui. En tant que chrétien, non. Voilà. Et avant d'exposer un certain nombre de choses liées au retour de Jésus, je vais commencer par poser ce que tout le monde croit, ce en quoi on s'accorde. C'est moi qui gère. Une des choses sur lesquelles tout le christianisme à 99% s'accorde, c'est sur le retour corporel de Jésus sur terre et la résurrection corporelle des croyants et des non-croyants. Donc on peut le voir dans 1 Thessaloniciens 4. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. » Donc il va revenir. « Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Jean 5, 28. « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Voilà, c'est un point sur lequel tout le monde est d'accord. Nous allons, Christ est ressuscité corporellement, et de même, nous allons ressusciter corporellement. Deuxième point, c'est Jésus revient pour juger. Et parfois, on entend des chrétiens qui ont cette retenue sur le jugement. Mais non, c'est bien une réalité biblique et qui va s'accomplir au retour du Seigneur. Hébreux 9, 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. 1 Pierre 4, ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. On peut aussi prendre, il y a plein de passages, il y a la parabole dans Matthieu 25 sur la parabole des brebis et des boucs où il sépare les uns et les autres et certains vont à la vie et les autres à la mort. Donc le jugement aura lieu. C'est une réalité. Et le troisième point sur lequel tous les chrétiens s'accordent, c'est la vie éternelle sera sur une nouvelle terre ou une terre renouvelée. Alors, plus récemment, la terre renouvelée, mais il y a une tendance, je dirais, à une harmonisation des positions vers cette vision que la terre ne sera pas complètement détruite, mais en fait qu'elle va être renouvelée au moment de la venue. Mais bon, là encore, c'est difficile d'être catégorique parce qu'il y a aussi un certain nombre de versets, notamment dans Pierre, qui disent que voilà, il va y avoir, les éléments vont être embrasés. Dans l'Apocalypse, il est dit que le ciel va être roulé comme un rouleau. Donc voilà, c'est pas forcément évident. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que soit elle est détruite et renouvelée, soit elle est simplement renouvelée. En tout cas, la nouvelle Jérusalem vient sur une terre. Apocalypse 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Voilà. Alors, ça peut paraître, vous pouvez vous dire, si vous êtes chrétienne depuis longtemps, oh, ça va, ça je sais, c'était pas la peine de le préciser. Mais si, si, parce que ce sont quand même des points centraux. C'est des points très importants. Après la mort du corps terrestre, et ça c'est une réalité, aucun d'entre nous n'allons garder notre corps terrestre. La Bible affirme qu'il y a un grand jugement qui concernera toute l'humanité et même certains anges, et que tout le monde ressuscitera dans un corps céleste et dans un corps. D'accord ? Et aujourd'hui, il y a des pensées qui disent autre chose. Et la Bible nous dit qu'il y a une éternité à venir que l'on va passer soit dans la vie auprès de Dieu, soit dans la mort définitivement séparée de Dieu. Il n'y a pas de place dans la Bible pour les théories bouddhistes, animistes ou naturalistes ou que sais-je encore. Ce n'est pas une option. Après la mort physique, il n'y a pas rien. Nous n'allons pas faire partie de l'univers. Non, c'est pas ce que la Bible nous dit. Et c'est pour ça que Jésus nous met en garde. On connaît tous ce verset dans Luc 12, 5. Je vous montrerai qui vous devez craindre. C'est fort, ça. Hein ? On n'a pas l'habitude d'approcher Jésus comme ça. Mais il nous dit, je vous montrerai qui vous devez craindre. Ce n'est pas celui dans le contexte. Ce n'est pas celui qui a le pouvoir de tuer votre corps physique. Mais craignez celui qui, après avoir éliminé le corps physique, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Et l'espérance biblique est une espérance d'une vie en tant qu'individu bien définie. Nous n'allons pas faire partie d'un tout et ne pas exister quelque part, par opposition donc aux pensées que j'ai décrites. Il n'y a pas rien. Nous allons être quelqu'un avec un corps défini, vivant sur terre ou dans un étang où le feu ne s'éteint pas. Voilà la réalité de la vision biblique du monde. Donc, ô combien c'est important de se réapproprier tout ça et d'en être convaincu. Oui, nous allons ressusciter corporellement. Oui, il y aura un jugement de Dieu. Et oui, il y aura une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Amen. Ça va ? Alors, on rentre un petit peu dans certaines notions. Je voudrais poser quelques bases d'interprétation avant de dérouler un petit peu plus la position qu'on adopte ici. Et je voudrais donc dérouler un certain nombre de points. Et le premier, c'est que l'expression, autour de l'expression la fin des temps, beaucoup se prennent les pieds dans le tapis, j'allais dire. Et quand un témoin de Jéhovah, en général, m'accoste, très souvent, il commence par dire, est-ce que vous savez que nous sommes dans les derniers temps? Et alors, je leur réponds toujours, ben oui, ça fait 2000 ans qu'on est dans les derniers temps. Et alors, il me regarde bizarrement, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Eh bien oui, bibliquement parlant, quand la Bible emploie l'expression les temps de la fin, en fait, elles ont commencé à la première venue de Jésus. Et on peut prendre un verset parmi tant d'autres, mais 1 Pierre 1, verset 19. Il y est ou pas? Oui. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, destiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc le Christ a été manifesté à la fin des temps. Acte 2. Dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair, et c'était l'épisode de la Pentecôte. Donc, à chaque fois que la Bible va utiliser cette expression, les derniers jours, les derniers temps, ou les temps de la fin, en fait, elle parle de la période qui va précéder la venue de Jésus. D'accord? Et pas du tout de la fin, 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 fin. Ou plutôt, elle commence là et elle va jusqu'à sa deuxième venue. La deuxième, ce qu'on appelle en théologie la deuxième parousie. Voilà, ça c'est la première chose. Et c'est important d'être au courant quand on lit sa Bible de cette interprétation-là. La deuxième, c'est il faut autant qu'on peut interpréter le symbolisme par la doctrine. Les passages imagés par les passages clairs. Et pas l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut essayer de faire rentrer les passages doctrinaux de la Bible dans les passages allégoriques ou symboliques. Le symbolisme, en fait, en d'autres termes, est simplement là pour redire d'une autre manière ce qui est dit dans les passages clairs ou doctrinaux. Et ça, c'est important, parce que beaucoup font l'inverse. Ils prennent le symbole, ils vont essayer de faire rentrer la doctrine là-dedans. Non, c'est la doctrine qui est première et qui est ma clé d'interprétation du symbolisme biblique. Troisième, il est important d'avoir une vue d'ensemble du plan de Dieu et de l'eschatologie avant de foncer tête baissée dans les détails. Qu'est-ce que vous pensez de ce schéma-là? Bon, c'est en anglais en plus, j'ai fait exprès. Ah oui, toi, vous comprenez. C'est un point de vue qu'on appelle le dispensationalisme qui fonce tête baissée dans les détails. Et ils sont toujours en train de se disputer, bien sûr, sur les positions. C'est tellement compliqué qu'on y perd son latin. Avant même d'avoir commencé, on ne sait plus où on est, ni dans le temps, ni dans l'espace. Ah, mais il revient là, avant. Et dans notre christianisme aujourd'hui, ça s'est beaucoup diffusé. Beaucoup. D'ailleurs, quand on parle souvent d'eschatologie, quelle est la première question? Avant, après ou pendant la grande tribulation? Si ça vous parle, c'est que vous avez discuté avec un schéma dispensationaliste. Et cette théologie se perd pour moi dans les détails et elle semble oublier la vision générale du plan de Dieu pour le salut et de l'œuvre de Christ. Si vous voulez, je peux vous l'envoyer cet après-midi. Autre point, il est important de comprendre l'harmonie existante dans toute l'Écriture. La vision de la fin des temps de Daniel, d'Ézéchiel, de Zacharie ou d'Ésaïe dans l'Ancienne Alliance est la même que celle de Matthieu, de Paul, de Pierre ou de Jean. Pas de Pierre, lui, mais si, aussi. Il y a un principe essentiel qui est celui de l'analogie de la foi. Cela consiste à interpréter un passage difficile de l'Écriture sur la base d'autres passages qui sont plus claires et qui permettent de comprendre. D'accord ? On trouve voilà, dans Romains 12 un exemple par rapport à la prophétie, selon l'analogie de la foi, ce qui veut dire selon l'ensemble de la révélation de l'Écriture. Et dernier point, avant d'attaquer le vif du sujet, où là je vais passer un petit peu plus de temps, c'est un concept avec lequel on bataille beaucoup, et personnellement dans notre quotidien. Et c'est souvent au pied de ce concept-là qu'on fait des erreurs et qu'on chute dans des excès. C'est le principe de deux âges. En fait, c'est assez simple comment la Bible décrit les choses. Elle parle de deux âges, de deux périodes. Le siècle présent, qui est soumis à la mort et au péché, et le siècle à venir, qui, lui, est saint et éternel. Même si dans ces deux âges, on peut subdiviser certaines périodes, par exemple, dans le siècle présent, il y a la période de l'ancienne alliance et la période de la nouvelle alliance, ça reste quand même un schéma assez simple à comprendre. Le siècle présent et le siècle à venir, et aussi un schéma qui, pour moi, est très biblique. Marc 10, on peut prendre. Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. » On oublie toujours ce passage-là. « Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Dans Éphésiens 1 aussi, on voit... il est affiché ou pas? Voilà. À la fin, on va directement, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et cette expression, vous pouvez la taper, elle revient à de nombreuses fois dans le Nouveau Testament. Et cette dualité, pourquoi elle est importante? C'est parce qu'elle nous aide à comprendre, en fait, la doctrine de la fin, donc ce qu'on appelle l'eschatologie, mais aussi elle nous aide à vivre notre vie quotidienne, tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il existe tout simplement deux mondes. Il existe le monde d'en haut et celui d'en bas, Jean 8. Il leur dit, vous êtes d'en bas et moi, c'est Jésus qui parle, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi, je ne suis pas de ce monde. Il existe bel et bien deux mondes. Il existe deux ordres des choses, les visibles et les invisibles. 2 Corinthiens 4, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Paul est rigolo parfois quand il parlait, nos légères afflictions du moment. Il a été lapidé, mis en prison, torturé, humilié. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il n'a pas subi, la faim, le dénuement. Et il dit nos légères afflictions dans le temps présent par rapport au siècle à venir. Et il existe un monde temporel et un autre éternel. La suite de Corinthiens 4. Car les choses visibles sont passagères. Et les invisibles sont éternels. De manière générale, en fait, la distinction entre ce qui est terrestre et ce qui est céleste, l'ancrage de la vie chrétienne dans le monde céleste, sont une conséquence directe de la distinction des deux âges. Le chrétien distingue entre le ciel et la terre, entre le siècle présent et le siècle à venir. Il vit dans le présent, mais sa vie est cachée dans les lieux célestes en Christ. Il vit et il habite sur la terre, mais sa patrie, elle est dans le ciel. Il vit sous des autorités terrestres, mais son vrai roi, lui, habite le ciel. Et ce principe de dualité, il influence toute la piété et la théologie. et on n'a pas une doctrine du salut qui est juste pour le siècle présent. Sinon, Paul dira, on est les plus malheureux des hommes. Non, mais aujourd'hui, nous sommes persécutés. Nous marchons souvent à contre-courant du monde et même de notre propre chair. Mais c'est en raison de quoi? C'est pas pour rien. C'est parce que c'est en raison de tout ce qui nous est promis dans la vie après la mort, dans la résurrection, donc dans le siècle à venir. Nous endurons cette vie-là parce que nous sommes déjà en train de vivre la vie qui est à venir. Et alors, un point essentiel par rapport à ces deux âges, c'est que ce serait très simple pour nous si un succède à l'autre. Sauf que ce n'est pas comme ça. Il y a malheureusement un chevauchement, heureusement pour nous, il y a un chevauchement, mais malheureusement pour notre compréhension, parce que ça nous perd parfois. Il y a un chevauchement dans la Bible entre le déjà et le pas encore, entre le siècle présent et le siècle à venir. Et parfois, c'est très perturbant, parce que le siècle à venir a déjà commencé dans le siècle présent. Il y a une intrusion du royaume des cieux dans le royaume, dans la vie terrestre. Et tout au long de la Bible, le thème du royaume est présent. La promesse de Dieu dès l'Ancien Testament, c'est un royaume où Dieu règne pleinement. Et le Nouveau Testament parle aussi de ce règne où Dieu va accomplir complètement son règne sur toute la création et va le rétablir. Mais le Nouveau Testament donc ouvre ce fait que le royaume de Dieu est déjà au milieu de nous, de différentes manières, mais notamment par la prédication de l'Évangile et les signes du royaume qui se manifestent, libération des captifs, guérison, résurrection, etc. La vie éternelle est déjà accessible car le roi du royaume céleste est déjà venu. Toutefois, et c'est là où ça nous perturbe, la mise en place du royaume n'est pas encore complète. Elle est déjà là, mais pas encore complètement. Il manque ce qu'on appelle la pleine révélation. En d'autres termes, les chrétiens sont déjà purifiés, sont déjà justifiés, sont déjà graciés, ont déjà la vie éternelle, même si le jugement n'a pas encore eu lieu. Mais les chrétiens ne sont pas encore glorifiés, sont encore dans les tribulations et la souffrance. Peut-être on ne s'en rend pas assez compte de ça, mais allons en Corée du Nord, en Chine ou dans les pays où l'islamisme sévit fortement. Et je crois que cette réalité, on la saisira d'une autre manière. Hébreux 2 va nous dire « Tu as mis toutes choses sous ses pieds, donc sous les pieds de Jésus. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. » Si on s'arrête là, on est dans le déjà. Ben oui, c'est bon, c'est fini. Cependant, Paul, tu m'énerves. Nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Est-ce qu'il est devenu fou, Paul? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Ben non, il essaye de nous expliquer cette double réalité. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Et donc ici, on a bien une alternance entre le déjà, il a mis toute chose sous ses pieds, le pas encore, nous ne voyons pas encore que toute chose lui soit soumise, et encore le déjà, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Jésus est déjà couronné, et alors que l'Église est considérée comme un rebut de la société, les balayures de ce monde, nous dira Paul, par la foi, nous savons que déjà nous régnons et nous régnerons avec Christ au siècle des siècles et que nous jugerons ce monde à ses côtés. C'est une réalité attestée que par l'œuvre de Christ, mais nous ne le voyons pas encore. Jésus a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, Matthieu nous dit. Ce qui englobe les deux réalités, visibles, invisibles, siècle présent, siècle à venir, tout pouvoir. Mais Hébreux 10 va nous dire, lui, après avoir souffert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais, quoi ? Que ses ennemis soient devenus son marchepied. Encore une fois, cette double réalité. Il a tout pouvoir, il a vaincu, mais il attend que ses ennemis soient son marchepied. Les ennemis sont vaincus, mais ils ont un sursis avant que cette victoire ne soit définitivement entérinée pour l'éternité. Ça va ? Vous me suivez toujours ? Oui ? Cette réalité du déjà et du pas encore, elle n'est pas évidente, je trouve, à vivre dans notre quotidien. Alors que notre espérance, elle est grandiose, mes amis. Dans le déjà, déjà nous sommes auprès de Dieu. Déjà la régénération a commencé. On est déjà ressuscité. Paul va nous dire, on est déjà assis dans le ciel avec Christ. Waouh ! C'est juste extraordinaire. Cependant, nous ne le voyons pas encore complètement. Et nous continuons souvent, parfois, à nous sentir seuls, à souffrir dans notre corps charnel. Mais ça ne veut pas dire que c'est faux, mes amis. C'est juste qu'on vit dans cette période qui va où s'imbrique l'un et l'autre. Voilà pour les principes généraux. Il me reste 10 minutes. Donc, je vais essayer d'aller assez vite pour parler de certaines choses par rapport au retour du Seigneur. C'est bon, je ne vous ai pas perdu ? Oui, c'est un principe qui est vraiment essentiel. Je vous encourage à relire les textes et à vous plonger là-dedans et ça va vous aider parce qu'on a une grande espérance. Et oui, on prie pour la guérison. Et oui, on espère cette restauration ultime. Mais on continuera jusqu'au retour du Seigneur à vivre dans ce monde qui est difficile. Amen. Alors, je vais essayer maintenant humblement de rentrer dans une interprétation sur le retour du Seigneur. Je vous encourage pour cet après-midi à relire rapidement Apocalypse 20. On le fera en début d'après-midi. Parce que c'est un peu un texte support, et on présentera d'autres positions aussi. On a vu déjà ce matin que Jésus a déjà reçu la glorification, le pouvoir dans le ciel et sur la terre, et qu'il est déjà remonté au ciel, et qu'il s'est assis à la droite de Dieu. Et je dirais qu'il n'attend pas de revenir sur la terre pour établir son règne. Moi, j'y crois pas à ça. Mais il a déjà commencé à régner depuis le ciel, assis à la droite de son Père. La conception d'une venue de Jésus qui viendrait exercer un règne politique depuis Jérusalem pendant 1000 ans peut paraître quand même un peu surprenante. Jésus devrait quitter à nouveau la gloire céleste, ou comme on l'a lu dans Hébreux 10, il est assis pour un temps, pour toujours, pour venir exercer un règne limité dans une création encore entachée par le péché, qui meurt encore alors qu'il est assis dans les lieux célestes et qu'il exerce déjà son autorité. C'est un des arguments qui me fait le plus pencher envers cette position là que je vais défendre ce matin. Et une des questions qui se pose ici et qui est débattue dans les différents courants, c'est « Mais où est le trône de David ?» Pour ceux qui ont lu l'Ancien Testament, on sait très bien que c'est une prophétie, une promesse qui parcourt tout l'Ancien Testament. Et est-ce que l'attente d'un règne terrestre depuis Jérusalem où le trône de David serait terrestre est la bonne interprétation? Ou alors, est-ce que finalement, je peux voir un trône céleste où Jésus règne déjà? Et on voit bien les disciples autour de Jésus qui attendent l'établissement de ce règne terrestre. Mais ma question, ont-ils bien compris ce qu'était le trône de David? Psaume 132, juste pour poser. L'Éternel a juré la vérité à David, il n'en reviendra pas. Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. Cette attente, elle est légitime. Cette promesse est répétée des dizaines de fois dans l'Ancien Testament. Et quand Jésus naît, elle est rappelée en Luc 1. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur lui donnera quoi ? Le trône de David, son père. Et alors qu'il lui a donné le trône, quelle est la conséquence de ça ? Il règnera sur la maison de Jacob. Et c'est ce mot-là qui embête éternellement. Et son règne n'aura pas de fin. La question que l'on peut poser maintenant est « Et si le trône de David n'était qu'une figure typologique du trône céleste ?» Oh, combien de fois on a ça dans l'Ancienne Alliance ? Une typologie, ce qui est annoncé, pointe vers Christ. Jésus est bien assis sur le trône dans le ciel. Et ce n'est pas futur, c'est déjà pour moi. C'est le siècle du déjà, depuis 2000 ans. Il a déjà reçu le trône de David. Alors je sais que certains peuvent dire « Oh, tu exagères !» Mais il me semble que c'est quand même l'interprétation que Pierre en fait. On va lire dans Acte 2. Comme il, donc là c'est David, comme David était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, d'accord, il rappelle, et là comment il interprète ? Eh bien, c'est la résurrection du Christ qu'il avait prévu et annoncé. Ah, mince. Donc, le fait de s'asseoir sur le trône de David, c'est quoi ? C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, hop, on part où là ? Dans le ciel. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, lui. Mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, sur le trône. Je rajoutais sur le trône. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Et le trône, ce n'est ni plus ni moins que le symbole du règne. Le trône est l'image typologique, symbolique du règne de Christ. Et c'est, au verset 31, la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée. Et ce n'est pas juste la résurrection, mais c'est aussi son ascension et son intronisation. Jésus assis sur le trône de David n'est pas une chose qui va arriver dans le futur, mais c'est déjà arrivé au moment où Pierre parle. C'est pourquoi je pense que le trône de David est une figure du trône céleste, du trône de celui que lui-même appelait son Seigneur et auquel Dieu dit « Assieds-toi à ma droite dans les lieux célestes ». C'est pour cette raison que bon nombre de frères et sœurs furent tués au premier siècle. Car ils disaient, non, ce n'est pas César qui est le Seigneur. Jésus est le Seigneur, c'est lui qui règne. Voilà un des arguments par rapport au trône. Alors, à quoi s'attendre? Si Jésus ne vient pas établir un règne de 1000 ans sur terre, à quoi peut-on s'attendre? Eh bien, ce que nous attendons, c'est la manifestation pleine et entière et visible de son règne actuel. Ce n'est pas qu'il doit commencer à régner, mais il règne déjà, mais nous ne le voyons pas encore pleinement. Nous attendons la fin des siècles qui va continuer, qui va coïncider avec sa deuxième venue. Est-ce qu'on peut avoir le schéma de la fin? Ah, vous avez changé. C'est pas moi, et l'image de la fin. Voilà. Le siècle présent qui a commencé, l'intrusion du siècle à venir avec la venue de Jésus et la croix, le chevauchement des deux siècles jusqu'à la deuxième parousie, c'est-à-dire au deuxième retour du Seigneur. Et nous sommes dans cette période où se mêlent à la fois le déjà et le pas encore. Et puis viendra la fin du monde, la résurrection finale et le jugement. Est-ce que je peux vous prendre encore 5 minutes? Oui, je suis désolé. Hein, c'est vrai que c'est compliqué de prendre des raccourcis et je préférais prendre le temps de poser un certain nombre de choses. Je vais juste finir avec quelques conclusions. La venue du Messie est comprise comme 2 événements. D'accord? La venue du Messie est comprise comme 2 événements. Nous pouvons conclure, dans Hébreux 9, 28, il est dit « Il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Pour nous, c'est évident. Mais quand on relit les prophéties de l'Ancien Testament, ce n'était pas une évidence. Eux, ils voyaient une seule parousie, un seul retour de Christ, d'accord? Et les théologiens disent, c'est comme si on voyait 2 montagnes, une grande et une plus petite, et qu'eux, ils n'avaient pas la vision de la vallée qui séparait les deux. Alors que nous, on l'a aujourd'hui, parce que Christ est déjà venu une première fois il y a 2000 ans. Et c'est quand même quelque chose d'important à poser, de retour de Christ. Et avant, ils avaient du mal à conjuguer ça. Gardons-le en tête quand on relit les prophéties de l'Ancienne Alliance. Autre chose, ce n'est pas la deuxième venue qui est décisive, c'est la première. C'est la première. C'est à la croix que s'est fait le combat contre la puissance des ténèbres. C'est à la première venue qu'il y a eu une intrusion du siècle à venir dans le siècle présent avec l'incarnation du Fils de Dieu. La manifestation de la puissance et de la gloire de Dieu par le Fils, la mort et la résurrection de Christ qui expie le péché pour toujours et donne la vie éternelle à tous ceux qui croient, l'ascension, l'effusion de l'Esprit à la Pentecôte sur l'Église qui va permettre de demeurer auprès de Dieu, de marcher selon ses voies et de participer à la puissance du siècle à venir. Ce qui a été décisif, c'est à la première venue de Christ. C'est donc lors de la première venue, avec tous ces événements, que le royaume des cieux a été inauguré maintenant, que le siècle à venir a commencé déjà. Alors, c'est quoi la seconde venue? Eh bien, la seconde venue, c'est la consommation du siècle présent. C'est l'achèvement du royaume temporel terrestre pour laisser place au royaume éternel avec une terre renouvelée. Jésus va revenir sur la puissance du siècle à venir. Il y aura la résurrection des justes et des injustes. Tous les hommes ayant existé vont ressusciter et ce sera le jugement final. Devenu et la grande victoire a été accomplie à la première venue. Deuxième conclusion, c'est qu'on vit, nous vivons déjà dans le règne de Christ. Le Messie règne par l'œuvre de sa grâce. Apocalypse 1, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume. Le millénium, comme on peut entendre, représente pour nous cette période entre la première et la deuxième venue de Christ. On aura le temps cet après-midi de poser plein de questions par rapport à tout ça. Troisième, nous vivons dans le siècle présent, mais nous appartenons au siècle à venir. Philippiens 3, verset 20. Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Ceci implique qu'il y aura toujours une tension entre les deux siècles jusqu'à son retour. Il n'y aura pas, je ne crois pas, d'âge d'or de l'Église, comme on peut entendre, même si à certains moments, l'Évangile a pu prospérer dans un sens et progresser de manière très significative. Le siècle présent, Paul nous dit, est mauvais et il le restera. Galates 1, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Il n'y aura pas de collaboration politique saine entre l'Église et le monde qui va faire que l'Église prospérera sans qu'elle ne soit opposée au monde. Peut-être on rêve de ça en Occident. Je suis désolé, mais la Bible n'en parle pas. Elle parle plutôt du contraire. Il y aura toujours une tension entre les habitants des cieux et ceux de la terre. Nous ne sommes pas appelés à prendre les armes pour établir un royaume terrestre, mais nous sommes appelés à souffrir patiemment en accomplissant l'œuvre de notre Seigneur, sachant que nous avons la victoire. Pourquoi ? Parce que c'est exactement ce que le Seigneur a fait. Jésus a accompli l'œuvre de Dieu et a remporté la victoire au travers de la souffrance, au travers de la croix. Tout le Nouveau Testament et l'Apocalypse en particulier dépeignent les persécutions des saints qui sont pourtant plus que vainqueurs, Paul nous dira. Alors on m'a posé une question. Doit-on arrêter de travailler, vendre ce que l'on a ? C'est la pandémie, c'est le signe du retour du Seigneur. Est-ce qu'on doit faire ça pour se protéger et s'isoler ? Doit-on arrêter de vivre normalement ? Comme certains suggèrent dans chaque génération ou à chaque événement un peu cataclysmique, eh bien, bien sûr, la réponse est non. D'accord ? La réponse est non. La Bible ne nous dit pas de le faire. Puisqu'on a lu l'évangile de Matthieu, on se rappelle qu'au chapitre 24, Jésus nous dit qu'il reviendra comment ? Comme un voleur. C'est-à-dire pas au moment où tu vas t'y attendre, au moment où tu ne vas pas t'y attendre. Et l'un sera où ? Au champ. Et l'autre, à la meule. Nous serons en train de faire ce que nous avions l'habitude de faire. Travailler, prier, vivre l'église locale, etc., etc., etc. Nous continuons de vivre dans le siècle présent en gardant notre cœur au ciel et en veillant le retour de notre Seigneur. Conclusion de la conclusion, Colossiens 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Voilà, je termine en disant que notre espérance, elle n'est pas vaine, mes amis, mes frères, mes sœurs, comme celle du monde. Notre espérance, elle est sûre et certaine. Elle est ancrée dans la parole de Dieu, du Dieu vivant qui tient l'histoire dans ses mains, qui tient notre histoire. L'étude de la fin des temps et de son retour doit avoir pour objectif premier et je crois que c'était l'objectif de Jean quand il a écrit le livre de l'Apocalypse, c'est de faire naître en nous un puissant encouragement face à l'épreuve et à la persécution. Il ne convient pas d'utiliser ces passages pour affoler, pour instaurer un climat de crainte ou d'angoisse. Le retour de notre Seigneur bien-aimé est avant tout l'espérance d'une résurrection corporelle, la libération définitive du péché, du mal et de la mort. Le plein accomplissement du salut en Christ qui nous permet d'échapper non à la mort de notre corps terrestre, mais d'échapper à ce que Jean appellera dans l'Apocalypse la seconde mort. La seconde mort. Et cette mort-là, elle n'est pas comme la première. C'est la mort éternelle. Excusez-moi, je me suis replongé dans ces textes et ô combien c'est dur de réaliser ça. Et c'est une réalité que la Bible nous décrit. Ce qu'il faut craindre, Jésus nous dit, c'est la seconde mort. Ce n'est pas la première. C'est rien la première. Paul nous l'a dit. C'est rien les souffrances du temps présent par rapport à la gloire qui nous attend. C'est rien, mes amis. Oui, c'est dur. Mais quelle promesse le Seigneur nous fait et nous dit que ce sont nos ennemis qui ont à craindre. Ce sont les ennemis de Christ qui doivent craindre la seconde mort et la séparation éternelle et définitive d'avec le Père. Jésus conclut le livre de l'Apocalypse en disant « Oui, je viens bientôt. » Et l'Église répond « Amen, viens Seigneur Jésus. » Amen.